France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
De la Belle au Bois dormant au Petit Pousset, nous croisons le petit chaperon rouge, barbe bleue, le chat botté, des fées, Riquet à la houppe et Cendrillon. Où la petite pantoufle de verre reste à savoir de quel verre il s'agit. Les contes de Perrault, parus en 1697 sous le titre « Les contes de ma mère Loi » font partie intégrante de notre imaginaire collectif et bien souvent, ils sont constitutifs de ce que nous sommes. Ils touchent à notre jeunesse sublime. Lecture pour la jeunesse et pas seulement la jeunesse dorée, car les enfants ont des lettres. Et avec Perrault, le conte est bon.
Eh ben, entre quoi, reste pas comme ça. On dirait que t'as croisé un fantôme. Assieds-toi. Je vais t'offrir ce que tu attends depuis longtemps. Je vais te faire partager quelques histoires de méchants loups, d'ogres, de fées, de princes charmants qu'il te faudra garder quelque part dans un coin de ta mémoire, car tous ces contes, c'est l'histoire de la vie. Bon, allez. Attrape ce gros livre-là qui est sur la table et que le rêve commence.
Que le rêve commence, Claude Brasseur, évidemment. Bonjour Pierre-Emmanuel Mogg.
Bonjour Xavier Mauduit.
Avant toute chose, il faut nous dire ce qu'est un conte. C'est quoi un conte? Parce qu'on va parler des contes de Perrault, mais précisons déjà de quoi il s'agit.
Alors, en effet, le conte de Perrault est une espèce particulière parmi les contes. Il y a plusieurs variétés. Il y a le conte populaire de tradition orale, qui, en général, est fait d'aventures rocambulesques, avec des personnages assez archétypaux, une fin heureuse, on connaît tous ces principes structurels et formalistes qui ont déjà été bien étudiés. Il y a les contes des conteuses contemporaines à Perrault, qui ressemblent en vérité plus à des nouvelles, avec également beaucoup d'événements surnaturels qui se produisent. Et il y a le conte de Perrault en particulier, qui essaye de réconcilier sans doute le conte et la fable.
Ouais, parce que nous sommes à cette période où La Fontaine écrit également ses fables, mais tout ça s'inscrit dans des héritages beaucoup plus lointains.
Oui, La Fontaine a fait un travail qui consistait à prendre un genre qui était considéré comme mineur, qui était un genre soit pour les savants, soit uniquement à usage pédagogique, et effectivement à y amener sa patte littéraire. Perrault a voulu l'émuler en prenant un conte, un modèle qui était une poétique populaire et nationale. Il y avait aussi un aspect nationaliste, puisque dans sa vision du XVIIe siècle comme étant le summum de l'histoire, c'était aussi le XVIIe siècle français en particulier, pas occidental en général. Mais il a tout de même complètement transformé le conte, où il ne s'agissait pas simplement de parler de quidam qui allait évoluer et finir par épouser une princesse, mais de passer des messages, des leçons de vie auxquelles il tenait.
Parce que dans la présentation que vous nous faites, Pierre-Emmanuel Mogg, vous êtes anthropologue, hein, chargé de recherche à la Bibliothèque nationale de France. Dans cette typologie des contes, il y a des genres et, je l'ai bien entendu, vous l'avez dit, il y a un genre à lui seul qui est le conte de Perrault.
Quand la nuit enfin arrivait et que la maisonnée dormait, Cendrillon allait se coucher dans une chambrette au grenier.
Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps qu'il avait forme humaine.
Petit miroir sorcier, dis-moi quelle est la plus belle femme de tout le pays.
Maman, tu as vu Catherine comme elle semble heureuse? Regarde comme elle s'amuse avec Monsieur Barbe Bleue.
Oh, voyons, mon enfant, ne l'appelle pas ainsi, s'il t'entendait.
Ulcérée par cette révélation, la reine trépigna de colère et fondit en larmes.
Ces paroles terribles firent frémir toute la compagnie et il n'y eut personne qui ne pleurât.
Désormais, elle ne put croiser Blanche-Neige sans lui manifester son terrible ressentiment par des coups, des insultes ou des regards fulgurants. La jalousie lui rongeait le cœur.
Mais elle eut, quelques moments après, un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide.
Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le mangea.
Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre.
Parfait, parfait.
Eh bien, ici, nous avons croisé Jean Rochefort, Claude Pieplu, Aline Bertrand, Simone Vanier, Lisette Lemaire et Claude Brasseur. Avec Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Barbe Bleue, Riquet à la Houppe et Le Chaboté, Pierre-Emmanuel Mogg. D'ailleurs, nous sommes surpris hein, aujourd'hui, en entendant tous ces titres de contes, de voir leur succès. Est-ce que Charles Perrault, quand il fait paraître en 1697 ses contes de la mère Loye, il révolutionne la chose? Est-ce que quelque chose qui surprend ses contemporains parce que ce serait complètement nouveau?
Alors, en 1697, ce ne sont pas les contes de ma mère Loye. En 1697, ce sont les histoires ou contes du temps passé avec des moralités. Je crois qu'il y tenait le « avec des moralités ». En fait, c'est en 1695 qu'un premier manuscrit apparaît avec le titre du recueil « Contes de ma mère Loye », titre qui sera repris simplement dans le recueil publié en 1697, dans le cadre de l'image sur la page de garde, ce qu'on appelle le frontispice. Et dans cette image, il y a Conte de ma mère Loye qui est repris. Mais en fait, il met une certaine distance avec cette appellation parce que le Conte de ma mère Loye, en réalité, pour l'époque, c'est une appellation générique pour les contes et plutôt péjorative puisque c'est une fable ridicule, nous dit l'Académie française, contée par des vieilles pour des enfants. Donc, dans un premier temps, il l'admet puis il s'en éloigne peu à peu. Alors, est-ce qu'il révolutionne le genre? Oui, mais il ne le sait pas lui-même. C'est ça la chose extraordinaire. Parce que, en même temps que lui, paraît de nombreux recueils, c'est tout un mouvement, on appelle ça la vogue des contes de fées, avec Madame d'Aulnoy, Mademoiselle l'Héritier, Catherine Bernard, Madame Murat. Elles sont très nombreuses, des hommes aussi dans la décennie qui suit. Ceci dit, lui, il a un style très particulier, beaucoup plus court, ce sont moins des nouvelles que des contes, surtout quand il passe au conte en prose, avec une écriture très ramassée, faussement simple, beaucoup d'ellipses extraordinaire. Il n'assume pas complètement l'exercice, on en parlera peut-être à propos de la signature, et il ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il fait, parce qu'en même temps, il rédige ses mémoires. Et quand il rédige ses mémoires, à cette période-là, il va parler de grandes œuvres pour l'époque, comme Le Parallèle des Anciens et des Modernes, mais il n'évoque pas du tout les contes.
Oui.
Voilà. Donc la postérité, parfois, amène des surprises.
Les mémoires de Charles Perrault, bien sûr, il les assume. Ses contes, il les assume moins, au sens où c'est publié, ce n'est pas son nom. Alors, c'est beaucoup plus complexe à la manière dont est signé ce recueil de contes.
Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est un genre mineur. Au départ, le conte populaire, c'est même un genre féminin, beaucoup à cette époque, ce qui n'est pas un gage de reconnaissance, en tout cas dans le monde des lettrés. C'est un amusement, c'est un jeu mondain, mais lui va transformer la chose plus dans une émulation avec La Fontaine, hein, pour essayer d'instruire et de plaire, comme les classiques le voulaient. Et il n'assume pas complètement la chose, de sorte que dans un premier temps, il fait des contes en vers. C'est pas pour rien, parce qu'au moins il compense le conte par de la poésie, genre lui qui est noble. Et puis finalement, le temps de quelques années, il doit se rendre compte que ça ne marche pas tout à fait, que ça l'amène à être également précieux quand il en vers, à avoir des longues descriptions, et il va passer à la prose, où il sera avec du colère très simple qui permettra des ellipses, des jeux de mots. Simplement, à ce moment-là, il va le faire signer par son fils.
Qui est jeune à ce moment-là.
Qui a 16-17 ans. D'évidence, il est possible que le fils ait entendu des histoires qui lui sont racontées et qu'il ait transmis ces histoires à son père. Mais je crois qu'il faut se départir un peu d'une idée assez répandue qui est que Charles Perrault n'aurait fait qu'apporter une sorte de touche littéraire par-dessus. Non, il a sélectionné les histoires, il a modifié les canevas, les intrigues, il a fait du bricolage en quelque sorte pour pouvoir passer les messages qui le préoccupent, au-delà bien entendu de son génie littéraire par-dessus.
Mais c'est quand même signifiant que ce recueil de contes soit signé de son fils, c'est-à-dire d'un jeune homme de 16 ans, c'est-à-dire que le conte est déjà relié à la jeunesse.
Alors, sans doute qu'il y a une stratégie à la fois de ne pas assumer complètement l'objet dès le moment où il est en prose. D'ailleurs, il change d'éditeur à cette occasion, son éditeur traditionnel qui était la famille Coignard, notamment pour les textes en prose, puis aussi les œuvres qu'il publiait dans le cadre de l'Académie française. Là, tout d'un coup, il passe chez Barbin. L'édition, d'ailleurs, n'est pas de très bonne qualité. Hein. Vous savez, l'édition 1697, il y a beaucoup de coquilles, il y a plusieurs tirages. Alors nous, les spécialistes, on travaille dessus, c'est très intéressant, mais elle n'est pas d'un tirage de bonne qualité, c'est ce qui est assez significatif. Même les vignettes, les images elles-mêmes sont assez rustiques, hein, il faut le dire. Elles ont beaucoup de charme pour nous, mais elles sont assez rustiques. D'un autre côté, il y a peut-être aussi une stratégie pour placer son fils, hein, le faire, en tout cas, lui trouver un emploi de copiste, de secrétaire. Malheureusement, les choses ont mal tourné pour le fils, mais c'est une autre histoire.
Pierre-Emmanuel Mogue, hein, vous allez faire paraître dans la fabrique des contes de Perrault chez Garnier Classique, parce qu'il y a cette fabrique qui nous intéresse. En 1697, Charles Perrault est un vieux monsieur, hein, il approche les 70 ans, donc il a déjà toute sa carrière derrière lui. D'ailleurs, il vient d'où ? C'est qui ce Charles Perrault ?
Alors, c'est vrai qu'il a toute sa carrière et c'est vraiment son expérience qui rejaillit dans ses contes. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut lire les contes en parallèle avec, justement, d'autres œuvres contemporaines comme d'autres contemporaines de Perrault lui-même, et notamment ses mémoires, même s'il ne pensait pas forcément au public, c'était plus à usage familial. Mais on retrouve en quelque sorte, sous une forme littéraire différente, les mêmes enseignements. Alors, il est né en 1628, dans une famille qui n'est pas de la noblesse, hein, il faut le noter, mais qui est tout de même de la bourgeoisie très intellectuelle parisienne, avec des origines plus lointaines, qui était notamment un brodeur à Tours. Mais enfin, lui, il est tout de même ancré, et il est vraiment très très parisien, je crois que c'est un élément notable. Il faut dire que durant sa vie, il a à peine quitté Paris. Bon, il est allé bien entendu dans les différents lieux de l'Île-de-France, de Fontainebleau à Versailles et Chantilly. Il est allé à Orléans, semble-t-il, une fois pour ses études. Il est allé à Troyes, où il y avait sa belle famille qui avait une résidence. Il allait à Viry, hein, dans l'Essonne, parce que sa famille avait une résidence secondaire. Mais c'est à peu près tout ce qu'il connaissait du monde. Donc, il faut imaginer que pour lui, c'est Paris et l'Île-de-France qui est son monde à lui et qu'on voit dans les contes. Alors, sa famille, d'abord, il est dernier d'une fratrie avec des frères qui ont tous des professions intellectuelles, dirait-on aujourd'hui. Il y en a un qui était avocat comme le père, parlementaire, un autre qui était médecin, même si ensuite il est devenu plutôt biologiste, anatomiste, un autre qui était financier, un autre théologien.
Ah oui, donc on voit bien cet univers familial de cette bourgeoisie de la fin du XVIIe siècle, hein, qui est omniprésente et vraiment incontournable dans ce monde Louis XIVien. Lui, il se destine à quoi ?
Ben d'abord, il faut trouver sa place, hein, dans le cadre de cette famille où il a tous ses aînés qui l'impressionnent beaucoup et pour lequel, on le voit bien, il a beaucoup d'affection. Et donc, il a du mal à trouver sa place. Dans un premier temps, il fait des études de droit. Mais il exerce quelques mois et ça ne lui plaît pas. Il est assez dilettante dans sa vingtaine d'années. Il va un petit peu aider comme commis, c'est-à-dire comme secrétaire, son frère aîné, le financier, qui lui laisse vraisemblablement beaucoup de temps, qui lui achète par exemple, ça il en parle dans ses mémoires, son frère aîné va lui acheter une bibliothèque de livres. Et ça, c'est un événement important pour lui. Il commence à écrire, mais en fait, ce qu'on peut dire de ce qu'on connaît de ses écrits à cette époque, je veux dire quand il a une vingtaine d'années, Charles Perrault, il a une grande facilité d'écriture. On pourrait même pas vraiment dire un talent d'écriture. Vous voyez, je vais être un peu dur. De ce qu'on lit, il a une facilité d'écriture, mais c'est assez quelconque. Mais on sent cette facilité d'écriture et donc il se fait tout de même remarquer. Il se fait remarquer de sorte que quand il atteint la petite trentaine, on pense à lui. Voilà, on pense à lui.
Pour des charges beaucoup plus prestigieuses.
C'est cela. En fait, il y a Colbert qui vient d'être nommé aux bâtiments royaux pour présider les bâtiments. Et Colbert a l'idée que dès le moment où on a les bâtiments des inaugurations, il faudra forcément écrire des harangues, écrire des messages à la gloire de Louis XIV. Et de manière très professionnelle, Colbert veut s'entourer d'un petit comité d'experts.
Et donc Perrault, il est formidable pour ça. Cette facilité d'écriture, elle doit s'inscrire, hein, dans cet univers-là que l'on évoque. On est au temps de Colbert, on est au temps où l'Académie française est déjà instaurée. Il y a toute cette vivacité autour de l'écrit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas résumer de manière très simple, tant les mouvements sont diffus, différents. Il y a ceux qui veulent essayer de se distinguer au maximum, et puis il y a d'autres qui entrent dans une ligne, celle voulue par le pouvoir. C'est le cas de Charles Perrault.
Charles Perrault, on le voit dans ses écrits, est très flatteur vis-à-vis du pouvoir. Il va écrire des écrits de circonstances par rapport à des mariages, à des naissances royales, par rapport à des batailles. D'ailleurs, ce qui est tout à fait une anecdote assez savoureuse que lui-même compte dans ses mémoires, c'est que lorsqu'il est pressenti par Colbert directement. C'est pas Colbert qui pense à Perrault. Colbert, en fait, pour ce petit comité dont je parlais, pense à Jean Chapelain, qui est un académicien reconnu. Et c'est Jean Chapelain à qui il charge de coopter 3-4 personnes, qui lui pense à ce jeune homme de 30 ans, qui est Charles Perrault, mais lui font passer un test. Comme en 1663, à ce moment-là, il vient d'avoir la prise de Dunkerque, ben on lui demande de rédiger un discours sur le sujet pour voir ses capacités d'écriture de circonstances. Et il s'en sort, il faut le croire, très bien. Et effectivement, toute sa vie, il va écrire des choses très flatteuses. Mais là où ça n'est pas de la flagornerie, c'est qu'en fait, il y croit. C'est assez évident que Charles Perrault a une véritable conviction monarchique, une véritable conviction royale. Il a véritablement de l'admiration pour Louis XIV comme un grand homme. Ça n'est pas construit ou artificiel. Donc, il croit vraiment à... Il est légitimiste, fondamentalement.
Et puis, il appartient à ce cercle qui est au plus proche du pouvoir, hein, vous nous l'avez dit, par ses écrits. En fait, alors, écrivain de cour, ça ne veut pas dire grand-chose, ce n'est pas tellement le propos, mais il y a ses académies. Lui, il est au service aussi des académies, parce qu'il faut vivre dans le même temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir une charge. C'est laquelle pour Charles Perrault ?
Alors, ce petit comité qu'on appellera la Petite Académie, hein, qui n'est pas la Grande Académie, c'est l'Académie française, petit comité à ce stade qui est encore informel pendant une vingtaine, trentaine d'années, mais qui ensuite va devenir ce qui est toujours aujourd'hui l'Académie des inscriptions et belles-lettres, puisque c'était sa vocation au départ, de rédiger les devises, les monnaies, les messages sur l'inauguration de monuments. À ce moment-là, il a cet emploi, et comme il s'avère aux yeux de Colbert travailleur, il va également être pris comme premier commis, comme assistant très très proche de Colbert. Il va démontrer sa capacité de travail. On sait que Colbert est réputé pour sa capacité de travail très impressionnante aux yeux de tout le monde. Mais je crois qu'il va apprécier aussi, dans le cas de Charles Perrault, et son travail et son intégrité.
Charles Perrault, qui ne voyage pas beaucoup, vous nous l'avez dit, Pierre-Emmanuel Mogg, mais qui a des origines familiales, hein, du côté de Tours, eh bien, nous allons justement à Tours, pas très loin de Tours, au château du C.
Charles Perrault l'a peut-être vu ainsi pour la première fois, le château du C, au petit matin, comme sorti d'un long sommeil. Pour le conteur, pas de doute, c'est le château de sa belle au bois dormant.
Cet ensemble de tours très pointues, de pierres très blanches, adossées à une forêt un petit peu mystérieuse, crée un ensemble qui ne peut pas ne pas faire rêver.
Et l'endroit attire les visiteurs, 120 000 chaque année. Ussé est l'un des plus grands châteaux privés du Val-de-Loire, encore habité. Et si l'on s'y presse autant, c'est pour revivre le conte de fées.
C'est une histoire qui se termine bien et avec une princesse. Et moi, j'adore les princesses.
Tu le vois, le prince charmant ?
Il va lui faire un bisou sur la bouche, on dirait.
Le château d'Ussé, présenté en 2003 sur Antenne 2, ici Pierre-Emmanuel Mogg. Nous avons alors une relecture a posteriori en cherchant les origines du comte. Ce château est absolument sensationnel, hein, un château toujours en main privée, sont les ducs de Blacas, avec une inspiration possible. Je vais vous poser la question autrement. À quel moment dans son existence Charles Perrault se mit-il à rêver et à écrire des contes ?
Il a commencé par des contes de manière bien antérieure, mais qui étaient assez artificiels, des sortes d'allégories très générales, comme le dialogue de l'amour et de l'amitié sur des modèles classiques. Il a également écrit un autre conte où il s'agit d'un miroir qui reflète des personnages. Mais ce sont des allégories assez artificielles, avant qu'il se lance sur cette matière qui est le conte populaire, mais qu'il ne reprend pas tel quel le conte populaire. Il va faire du bricolage, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne prend pas des canevas existants, il reprend des sortes de briques narrative qui préexiste, que ça soit dans le conte populaire, mais également dans le conte littéraire, notamment italien, au XVIe siècle et au début du XVIIe, avec Straparola et Basile, où on retrouve des histoires similaires, mais il va tout de même les réécrire, je veux dire pas simplement au niveau du style, également au niveau des épisodes par rapport à ce qu'il veut faire passer. Il va le mettre aussi dans un contexte. Il y a souvent une méprise là-dessus qui n'est pas que rurale. On s'imagine le conte de Perrault, notamment parce qu'on a eu l'imaginaire de Grimm qui est passé par là.
Hein, tout bien à l'heure, plus tard, oui, c'est vrai.
Qui a repris certains des contes et qui est passé par là. D'ailleurs, tout à l'heure, dans votre diffusion, il y avait Blanche-Neige qui était intégrée, mais qui ne fait pas partie des contes de Perrault, avec pour les Grimm, effectivement, un imaginaire de forêt profonde, mais ça n'est pas le cas des contes de Perrault. D'ailleurs, une partie des contes de Perrault, on disait que Charles Perrault lui-même connaissait à peine, en dehors de l'Île-de-France, pas grand-chose, mais les contes de Perrault sont en partie rurales, mais quand c'est rural, c'est l'Île-de-France et ce sont des bois clairs, c'est pas des forêts profondes, et urbains. Des contes comme Cendrillon ou La Barbe Bleue se passent en ville, et c'est très important pour comprendre l'histoire.
Et oui, parce que c'est cet univers-là, celui dans lequel évolue Charles Perrault, qui nous permet aussi de comprendre ses contes avec des inspirations multiples. Vous nous avez évoqué hein, cette littérature italienne, c'est-à-dire que ce même mouvement se produit ailleurs avec ces échanges culturels. C'est sûr qu'il y a connaissance et ses origines rurales. Il y a aussi cela qui fait le charme du conte, c'est ce côté un peu lointain, sans origine précise, ce « il était une fois ». C'est Charles Perrault qui invente le « il était une fois ».
Dans le cadre du conte littéraire français, oui. Et peu à peu, on voit que les autres contes contemporains de ses collègues, les conteuses, vont avoir des formulations qui seront « il fut autrefois »,« il y eut autrefois ». C'est Madame d'Aulnoy qui, le plus rapidement, va reprendre le « il était une fois ». Mais on le trouvait également chez Basilée. La seule chose, c'est que ce que va faire Perrault, dans cette expression d'ailleurs qu'il ne faut pas non plus se méprendre, « il était une fois », ça n'est pas « il y eut autrefois ». Ça veut dire que ça n'est pas un passé qui est définitivement accompli, ça persiste encore. Bon. Chez Basilée, ce sont des histoires dans lesquelles il y a des prologues. Et le « il était une fois » apparaît après le prologue. Il n'est pas directement en exposition. Charles Perrault lui-même, quand il évolue dans sa façon d'écrire les contes. Il y a d'abord les contes en vers, on l'évoquait tout à l'heure, puis les contes en prose. Dans les contes en vers, il y a également des prologues. Quand il passe son conte en prose, il affine, il épure sa poétique. On rentre directement dans le sujet, par « était une fois ». Et ça, c'est une innovation.
Et cette innovation-là est reprise, évidemment, parce qu'elle fonctionne très bien, que ce soit en littérature, mais aussi au cinéma.
Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une princesse aussi belle que vertueuse. Et ses époux vivaient dans une union parfaite. De leur hymen était née une fille douée de tant de charme et de grâce qu'il ne regrettait pas de n'avoir une plus ample lignée. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais. Les bâtiments étaient magnifiques, et les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice peut vous surprendre, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Mais les vicissitudes de la vie s'étendent aussi bien sur les rois que sur les sujets. Et les plus grands biens sont toujours mêlés de quelques mots.
Podane, le film de Jacques Demy en 1970, Pierre-Emmanuel Mogg, c'est quoi ça, Podane? Alors, il y a ce côté déjà conte populaire, très ancien. C'est une histoire qui était racontée par le passé, que Charles Perrault a saisi pour en faire autre chose.
D'abord, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que « conte de Podane » est une expression qui existe. Ça n'est pas un conte particulier avec l'histoire que nous connaissons. C'est une expression comme « conte de la Merlois » qu'on trouve dans le dictionnaire de l'Académie française de l'époque qui, en vérité, est une expression assez péjorative hein, puisque ça veut dire des histoires, des fables ridicules. Hein. Il y a cette notion de fables ridicules qui sont racontées par des vieilles pour des enfants.
Les oies, c'est bon. Ça, ce sont les vieilles dames.
Les oies, et pareil pour le conte de Podane. Donc, ces expressions ne désignent pas un conte en particulier. Chez Basilée Straparola, on retrouve des histoires où il y a effectivement une jeune fille qui subit le désir incestueux de son père, une princesse, mais par exemple dans un cas qui va s'enfuir avec une peau d'ours. Vous voyez, donc il y a parallèle. Par contre, dans l'extrait que vous nous avez diffusé ici avec le début de l'histoire et l'âne qui défèque de l'or, il faut se rendre compte que pour Perrault, sans doute qu'il amalgame dans ses récits des sources populaires, des sources terrestres, Aparola et Basile, des sources antiques, par exemple, on y retrouve aussi du Virgile dans l'Énéide, mais également des événements de son histoire contemporaine. Et on peut faire une lecture à clé des contes de Perrault, et notamment par rapport à l'âne qui défèque de l'or, on peut penser aux mines de Potosi.
Alors c'est quoi ça?
Alors les mines de Potosi, hein, qui sont la ressource ultime du siècle d'or espagnol depuis les grandes découvertes. L'Espagne, donc il faut se remettre dans le contexte qui n'est plus tellement évident pour nous aujourd'hui, mais à la fin du XVIIe, c'était l'Espagne, la grande puissance déclinante que la France avait l'ambition de remplacer et culturellement et politiquement. Et à nouveau, Charles Perrault revendique tout à fait, et il l'évoque par exemple dans un éloge qu'il fait de Richelieu, par ailleurs, cette politique de la France d'écarter, de repousser l'empire des Habsbourg qui entoure la France de tous côtés. Donc il y a un vrai rapport à l'Espagne et ce sentiment des Français de remplacer l'Espagne à cette époque. Dans le conte Podane, oui, on peut voir l'âne qui défèque de l'or comme une image d'une ressource qui fait vivre le pays, qui étaient les mines de Potosi, c'est-à-dire les mines, un endroit relativement sale hein, et abject, qui effectivement produit de l'or. On peut voir aussi la famille royale espagnole, dans laquelle il y avait aussi des relations un peu incestueuses, on le sait, et qui est remplacée en allant ailleurs pour les princesses. Elles vont trouver un avenir dans un royaume, lui, effervescent et de renouveau. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la princesse Podane, dans le conte de Perrault, est appelée l'infante.
Ah, ce rapport à l'Espagne, oui,
bien sûr. Rapport à l'Espagne, c'est un terme qui n'existe pas pour nommer les princesses françaises. C'est absolument clair que dans le dictionnaire de l'Académie, quand on parle d'infante, on désigne exclusivement une princesse espagnole.
Pierre-Emmanuel Mock, vous nous avez dit que Charles Perrault avait, alors j'utilise le mot nationalisme, on sait hein, les dangers des anachronismes, mais enfin cette fierté française, c'est-à-dire que ce beau royaume qui attend Podane, c'est sans doute la France.
Voilà.
Ah bah voilà, tout simplement.
Et on peut faire la même analogie dans Belle au bois dormant. Vous avez aussi une princesse qui quitte un royaume endormi, l'Espagne, pour un nouveau royaume, la France.
Ah oui, donc la lecture contextualisée des contes de Perrault nous en apprend beaucoup hein, sur les multiples significations de ces contes. Alors, Pierre-Emmanuel Mock, pour la prochaine question, c'est pas moi qui m'y colle, c'est quand même beaucoup plus lourd que moi, mais infiniment plus lourd que moi. C'est l'auteur de L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, c'est l'historien Philippe Ariès.
Les contes de Perrault, c'est une histoire très compliquée, très ambiguë, et qu'on pourrait peut-être résumer de la manière suivante. Monsieur Perrault, qui était un père de famille, avait envie d'écrire des contes pour des enfants. Il les a rédigés, mais il n'a pas osé les faire paraître sous son nom. Il les a fait paraître sous le nom de son fils, qui était un teenager, on se sent, n'est-ce pas ? Dans quel but a-t-il fait ça ? A-t-il fait ça pour faire passer sous le nom d'un enfant une littérature populaire, auprès des adultes de bonne condition, qui s'étaient autrefois un peu détachés de ce genre et qui y revenaient maintenant par une sorte de mode, ou bien voulait-il réellement s'adresser à des enfants ?
Philippe Ariès, en 1974, Pierre-Emmanuel Mock, et alors c'est quoi la réponse que vous donneriez à cette question de la littérature populaire à destination d'adultes ou à destination d'enfants ?
Alors, je pense qu'on peut, prendre les récits de Perrault au cas par cas, parce que ça n'est pas la même chose, ça n'est pas de manière homogène pour l'ensemble du recueil. Quand on a des histoires comme Griselidis, c'est d'évidence pas un conte pour enfants, de toute façon c'est en vers et ce n'est pas un vocabulaire d'enfant.
Ça raconte quoi,
Griselidis, qui est en fait une histoire qui est reprise de Boccace, à propos d'une jeune femme qui est épousée par un prince, mais est quasiment martyrisée, et qui va en fait plutôt faire preuve de valeur chrétienne. D'ailleurs, valeur chrétienne que peu à peu, en passant au conte en prose, Perrault va un petit peu retirer. Il va retirer tout ce qui est de la providence pour en vérité mettre en avant l'agentivité des personnages, c'est-à-dire leur propre capacité à se débrouiller. Mais sur l'aspect du public enfantin, oui, dans le cas du Petit Chaperon Rouge, c'est évident que ce conte est, avec un vocabulaire enfantin, avec des répétitions et des formulettes identiques qui plaisent aux enfants et qui permet une double lecture. D'ailleurs, il avait même mis en aparté dans la version manuscrite qu'il fallait, au moment de la dernière phrase que nous avons entendue tout à l'heure, au moment où le loup, ce méchant loup, se jeta sur la pauvre enfant et la mangea, qu'il fallait le lire avec une voix forte. Bon, dans tout le dialogue qu'il y a. Par contre, pour les autres contes, en dehors du Petit Poucet où il y a également un héros enfantin, ce sont pour la plupart des jeunes gens avec des thématiques qui sont plutôt de mariage et pas forcément des contes pour enfants.
Eh oui, bien sûr, parce que c'est une projection tardive de la vie de l'enfant, mais le Petit Poucet ou le Petit Chaperon Rouge, ce sont authentiquement des histoires d'enfants. Charles Perrault, vous nous avez dit, grande famille, sept enfants. C'est alors, comme le Petit Poucet, ça.
Lui, il est le cinquième, mais il a eu un jumeau qui est mort jeune, ce qui effectivement rappelle un petit peu la situation du Petit Poucet et pour des chercheurs comme Marc Soriano dans les années 1960, lui a fait beaucoup réfléchir et cogiter là-dessus.
Alors on a écouté la question que posait Philippe Ariès à propos des contes de Perrault. Bah, je vous propose quand même d'écouter la réponse qu'en donnait Philippe Ariès.
Au fond, la suite des événements a tranché et ce qui s'est passé, c'est que ces contes de Perrault, qui étaient des contes populaires, mais arrangés, édulcorés par un père de famille soucieux de bonne morale, qui voulait enlever tout ce qu'il y avait de trop cru dans les vieux dictons ou les vieux contes populaires, ces contes de Perrault représentent déjà un premier exemple d'une littérature à prétention moralisatrice cachée pour les enfants. Mais ce qui est plus extraordinaire, et c'est là tout de même où l'on peut admettre qu'il y a eu un choix spontané des enfants, c'est que ceux-ci l'ont adopté.
Histoire ou conte du temps passé avec des moralités. Ça, c'est le titre en 1697 de l'ouvrage. Et Philippe Ariès souligne l'idée de morale. Parce que là aussi, c'est très fort, la morale. Et vous venez de nous le dire, Pierre-Emmanuel Mogg, il y a certains contes où la morale est très claire. C'est vrai que le Petit Chaperon Rouge, enfin, c'est ce qu'on dit encore aux enfants, tu parles pas à un inconnu dans la rue.
C'est pas si clair que ça, même pour le Petit Chaperon Rouge, vous savez, c'est comme pour les fables de La Fontaine, où beaucoup de spécialistes d'aujourd'hui, finalement, se disent que les moralités qui sont à fin peuvent donner lieu à des interprétations, voire elles peuvent être multiples. C'est pareil pour les contes de Perrault. Dans le cas du Petit Chaperon Rouge, j'ai envie de dire à qui la faute. Est-ce que c'est effectivement d'avoir parlé au loup? Est-ce que c'est sorti du chemin? Mais elle n'a pas eu d'interdit. Contrairement à la version des Grimm, dans le texte de Perrault, on ne lui dit pas « tu ne dois pas sortir du chemin ou tu ne dois pas parler au loup ». Ou est-ce que c'est la faute de la mère qui l'a envoyé sur un chemin pour une enfant qui n'est pas encore assez mature? Donc vous voyez, on peut avoir ici de la marge d'interprétation. Quant à la moralité des autres contes, parfois il en offre plusieurs.
Ah oui.
Bon. Parfois, il en offre plusieurs. Pareil sur le modèle des fables de La Fontaine. Donc, à nous de voir ce qui s'applique. Et puis, en plus, c'est vrai que dans sa préface des contes en vers, il évoque le fait que, normalement, dans ce genre de récit, on doit avoir le vice puni et la vertu récompensée. Bon. Et d'évidence, c'est pas toujours ce qui se produit dans les contes de Perrault. Évidemment, dans le cas du Chaperon Rouge, qui était pourtant si adorable. Dans le cas du Chat Botté et de son acolyte, le fils du Meunier, qui sont tout de même des coquins, des drôles, nous dit le texte. Même le Petit Poucet, fait des choses pas très claires à la fin de son parcours. Et pourtant, il l'emporte. Mais quand, dans la préface, Perrault nous parle de cette moralité naïve, là, il parle pas de ses récits à lui. Il y a une méprise qui souvent est faite. Il parle justement des récits populaires. Lui, il crée un nouveau modèle. Un modèle où il va parler plutôt de leçons de vie que leçons de morale.
Ouais, leçons de vie, leçons de morale, parce que la notion même de morale est une notion complexe. Qu'est-ce qu'on fait de la morale? Qu'est-ce qu'une morale? Et c'est aussi ce qui explique le succès des contes de Perrault, Pierre-Emmanuel Mogg, c'est que ils peuvent être lus de manière différente selon l'âge, déjà, le milieu social, là où on se place. C'est pour ça qu'il y a plusieurs morales, en fait.
Même dans le cas du Chat Botté, faut-il le voir comme un modèle à suivre? C'est-à-dire, puisque ce conte nous parle du jeu des apparences qui permet de s'élever en société. Ce qui était valable à l'époque, ce qu'il est toujours et le sera de tout temps. Mais est-ce que c'est présenté comme un modèle à suivre? Est-ce que c'est présenté comme une critique moraliste de la société telle qu'elle est? Ou est-ce qu'au contraire, c'est présenté comme un modèle à ne pas suivre? Il y a un jeu possible d'interprétation.
En tout cas, il faut toujours écouter les conseils de ces contes de fées. Et parmi tous ces conseils, les plus précieux sont sans doute ceux de la fée Delilah.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et des législatures décidées avant le temps, qu'on ne marie pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant vin du pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oublie cet hymne insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Les conseils de la fée Delila, Michel Legrand évidemment, Delphine Seyrig évidemment aussi, c'est le film sur ce moment particulier de conte de fées quand apparaît la fée. Parce qu'on dit conte de fées, alors c'est cette idée-là qui a pris le dessus. Pierre-Emmanuel Mock, c'est quoi la place de ces fées dans les contes?
Alors l'expression conte de fées telle qu'on la connaît aujourd'hui est apparue assez vite, mais ça n'est pas celle qu'utilise Charles Perrault lui-même. Il parle, on l'a dit, dans un premier temps, de conte de ma mère Loi, et puis ensuite il va parler de conte tout court, mais il va utiliser l'expression dans ses écrits de contes de fées et d'ogres. Lui, c'est comme ça qu'il les appelle, de contes de fées et d'ogres. C'est en fait avec Madame Donlois et d'autres que, assez vite, en une dizaine d'années, émerge la notion d'abord de contes des fées, puis de contes de fées qui s'est stabilisé. Simplement, les fées dans la poétique de Perrault ont un rôle tout de même très particulier. D'abord, il faut rappeler, pour nos auditeurs, que dans le conte populaire, en général, il y a très peu de fées. Bon, il y a beaucoup d'événements surnaturels, mais on a comme antagonistes des diables, des ogres, sans doute, des géants, mais en fait on a très peu de fées. Chez les conteuses contemporaines de Perrault, on a beaucoup de fées. Mais chez Charles Perrault, on a des fées que sur 5 contes sur 10, et en plus elles ont un rôle en fait très limité, parce que elles produisent relativement peu de surnaturel, et elles ont, et c'est pour ça que c'est très intéressant là, ce que nous venons d'entendre avec le discours de la fée Delila, même si c'est le nom qui est donné par Demi, qui n'était pas dans le texte d'origine, ça a été repris par la suite, c'est qu'elles donnent des conseils. Ce ne sont pas simplement des fées chez Perrault, ce sont des fées marraines. Ce qui veut dire qu'en fait, elles ont un rôle beaucoup plus important en termes de conseils, de morale, que de suivre et d'avoir une sorte de substitution maternelle, que véritablement de fées au sens d'adjuvant. Parce que finalement, si on prend dans Peau d'Âne, lorsqu'elle lui recommande de demander des robes, c'est un conseil, on va dire, de bonne aloi, qui est de trouver une tâche impossible, ce qui d'ailleurs ne fonctionnera pas.
Mais bon, parce que la robe du soleil, la robe couleur de lune, etc., c'est bon, il la trouve.
Il la trouve, et il n'y a rien de magique dans ces robes. Il fait travailler ses brodeurs, ses tailleurs. C'est juste la qualité de son artisanat de cour dont il dispose. Quand on demande, quand elle lui suggère ensuite de demander la peau de l'âne, pareil, il n'y a rien de magique dans les conseils de la fée. La seule chose magique dans tout le conte peau d'âne que produit la fée, c'est uniquement de lui fournir un coffre qui la suit sous terre avec l'ensemble de sa toilette. C'est tout, rien d'autre. Et dans toute la seconde partie du conte, une fois qu'elle s'en va, Peau d'Âne se débrouillera seule. Donc en fait, le rôle de la fée est assez limité, et dans les autres contes, pareillement, elles ont plus un rôle de morale, de recommandation, que d'adjuvant, elles ont un rôle très ponctuel.
Oui, c'est ça. Le surnaturel peut prendre d'autres formes dans Podane. C'est une robe couleur de temps, robe couleur de lune, robe couleur de soleil. Et dans d'autres contes, bah, tiens, voilà du boudin.
Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience. Examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence. Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise, mais va tirer du vin derrière ses fagots. À son retour, il but, et, goûtant à son aise, près d'un grand feu la douceur du repos, il dit en s'appuyant sur le dos de sa chaise, « Pendant que nous avons une si bonne braise, qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. » À peine acheva-t-il de prononcer ces mots, que sa femme aperçut grandement étonnée, un boudin fort long qui, partant d'un des coins de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant. « Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire ?»
Ah bah oui, c'est couillon de désirer du boudin alors qu'on pourrait avoir tous ses souhaits réalisés. C'est Raphaël Laloum qui lisait un extrait des souhaits ridicules de Charles Perrault. Là, on est en 1693. Il y a beaucoup de contes de Perrault parce qu'on évoque ces contes de 1697 où il y a La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Barbe Bleue, etc. Il en fait d'autres par la suite?
En fait, il y a donc deux recueils. Le de second, c'est celui de 1697 avec huit contes en prose, mais il y a ce premier recueil en 1694 qui reprend des textes déjà publiés les années auparavant, celui que vous venez de citer, Les Souhaits Ridicules, qui sont des contes en vers, dans lesquels il y en a trois, Griselidis, Podane et Les Souhaits Ridicules. Et Les Souhaits Ridicules est un cas très intéressant parce que c'est en fait du travail que, en quelque sorte, que fait subir Perrault au conte, parce qu'il prend une farce facétieuse. Bon, un peu grotesque, comme on vient de l'entendre. Il conserve le côté grotesque et même burlesque, hein, c'est-à-dire le décalage entre le haut et le bas. Mais dans la farce facétieuse populaire, en général, ce qu'on souligne, c'est le problème du rapport du couple, de la mégère, hein, puisque souvent c'est tourné comme cela, et que effectivement, on va dire l'issue malheureuse pour ce couple reflète les relations, parfois même grivoises, ou manque de relation dans le couple. Alors qu'en fait, Perrault, il va prendre cette matière-là, mais pour le transformer dans un texte qui, pour lui, le compare plus, et il le dit explicitement, avec des fables de La Fontaine ou d'autres, sur des thèmes métaphysiques, hein, comme Jupiter et le métier, sur des thèmes métaphysiques, c'est-à-dire, est-ce que nous vivons dans le meilleur des mondes possible ou pas? Est-ce qu'on peut changer ce qui doit se produire ou pas? Mais il pose aussi des questions psychologiques sur... vous disiez que c'était un petit peu couillon de réagir comme ça quand on a une décision importante.
Mais non, mais il a le droit à un souhait et dit oh, « ça serait bien d'avoir du boudin ». Bon, il a du boudin, son souhait est réalisé.
Mais ce qui se passe entre les deux personnages, c'est en fait un dérapage émotionnel. C'est-à-dire que là où ils ont une décision importante à prendre, parce qu'il y a une mauvaise décision qui est prise au démarrage, eh ben ça enchaîne une insulte qui enchaîne d'autres mauvaises décisions. Donc il y a un dérapage émotionnel. Et là, c'est très intéressant chez Perrault, c'est... Il met en exergue ici ce qu'il pense pour cette classe populaire-là impossible, c'est l'importance de contrôler ses émotions.
Ah, il y a une morale.
Il y a une morale, bien sûr, et qu'on retrouve dans l'ensemble des contes, contrôler ses émotions est la clé pour s'en sortir. Et c'est quelque chose que lui-même a appris, j'ai envie de dire, à ses dépens, mais pas que à ses dépens, parce qu'il s'en est plutôt bien tiré, dans sa vie d'homme de cour.
Oui, parce que il y a, vous venez de dire, ce qu'il a appris, la chronologie à mettre en place de la vie de Charles Perrault. À qui destine-t-il ses premiers contes? Il n'écrit pas un manuscrit avec la volonté d'être publié et diffusé. Ses premiers contes en vers ne sont pas destinés au plus grand nombre.
Griselidis, qui est le tout premier, même si c'est plus une nouvelle, hein, ça n'est pas un conte merveilleux, c'est une nouvelle, donc je le disais tout à l'heure, tiré de Boccace, sans doute par l'intermédiaire de livrets de colportage, les cahiers bleus, il le fait lire à l'Académie française, et il le fait publier d'abord dans un recueil de textes de l'Académie française. Bon. Par contre, Podane, qui lui apparaît en 1694, Les Souhaits Ridicules qu'on évoquait, il commence à le faire paraître, et c'est en vers, c'est tout de même pour un public lettré et mondain. Dans le cas des contes en prose, c'est pour un public, oui, d'abord très parisien, lettré, on le disait tout à l'heure, chez Barbin, qui est un éditeur moins prestigieux que Coignard. Mais ça n'est pas pour lui son œuvre majeure.
Mais c'est pas ça. Pour lui, c'est quoi l'œuvre majeure?
Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que au même moment où il écrit les contes, donc il publie, enfin il publie pas justement, il les rédige ses mémoires, sans doute à destination de sa famille. Et là, il évoque des tas d'autres œuvres qu'il a écrites quand il avait 30, 40, 50, 60 ans, et son œuvre majeure pour lui, que sont les parallèles des anciens et des modernes, ce qu'il est persuadé qu'il restera pour la postérité. Alors oui, pour nous spécialistes, on le lit avec beaucoup d'intérêt. Mais on sait très bien, et c'est ça l'ironie de l'histoire, c'est qu'il va passer à la postérité pour ses contes, d'ailleurs avec une postérité qui va parfois être un petit peu déformante, parce que, on le disait par rapport aux frères Grimm, parfois on est teinté des contes des frères Grimm dans la réception qu'on fait des contes de Perrault, sur la fin du Petit Chaperon Rouge, par exemple. Donc, ça c'est sans doute le cours naturel de l'histoire.
Oui, parce que les frères Grimm, c'est vrai que c'est beaucoup plus postérieur. Nous sommes sur le 19e siècle par cette relecture des contes de Charles Perrault, qui, avec la querelle des anciens et des modernes, doit se situer quelque part. Donc, il se situe où dans cette querelle, lui ?
Alors, la querelle préexiste à son intervention. Elle date des années sans doute 1660, 1670. Elle prend des formes sur des, on va dire, sur des sous-thèmes de la querelle des anciens et modernes, comme par exemple la querelle du merveilleux chrétien, comme la querelle des femmes, qui sont des sous-parties de la querelle des anciens et des modernes, qui n'est pas que sur la littérature antique et moderne. Mais il la relance de manière paroxystique en 1687. En fait, à ce moment-là, il y a le roi qui est guéri d'une fistule. Et l'Académie décide de fêter l'événement, et c'est à cette occasion qu'il propose qu'on lise son poème « Le siècle de Louis le Grand ». Simplement, il ne fait pas que se féliciter de la guérison du roi, il en profite pour passer un message qui lui est très personnel, qui est de penser au progrès. Mais il commence à évoquer cette idée de progrès, mais de manière générale, bien sûr qu'elle va être ensuite étudiée au XVIIIe siècle par les Lumières, mais pour lui c'est un progrès d'évidence dans le domaine des sciences, des techniques, mais aussi un progrès dans le domaine des humanités, des arts, de la peinture, de la musique, un progrès aussi dans le domaine de la littérature, et de la morale. Même pour la morale, là on pourrait se dire quel progrès peut-il y avoir au cours du temps. Par exemple, l'art de la galanterie. C'est quelque chose qui va développer dans le parallèle d'anciens et modernes, où il va soutenir que la galanterie de nous autres, les modernes, est tellement plus raffinée que celle des anciens, où on enfonçait les portes et on raptait les femmes. Alors que nous, nous passons par de la conversation.
Alors, il considère que le moment dans lequel il vit est le meilleur des moments et que le pays dans lequel il vit est le meilleur des pays. C'est ça, Charles Perrault.
Absolument. Le côté nationaliste est inclus dedans. Ça n'est pas que le meilleur des moments pour le monde occidental en général. C'est le meilleur des moments et en France en particulier.
Hey.
D'où l'idée aussi de prendre une poétique particulière qui est une poétique nationale, le conte.
Avec un homme curieux. On le sent, Charles Perrault, curieux de tout, même si la curiosité est un vilain défaut.
Hésitante, elle repensa à la mise en garde de son mari, à ses terribles menaces de punition, mais la tentation était trop forte. Elle mit la petite clé dans la serrure, et toute frissonnante de peur et d'excitation, elle ouvrit doucement la porte. Il faisait noir. Elle ne vit rien d'abord. Puis ses yeux s'habituèrent à la pénombre. Et elle remarqua alors que le sol était couvert de sang. Et horreur ! Tout à coup, dans l'ombre, elle aperçut des corps sans vie. Aussitôt, elle comprit. C'étaient les femmes que Barbe Bleue avait épousées, puis tuées l'une après l'autre. Voilà pourquoi on ne les avait jamais revues. La malheureuse faillit s'évanouir de frayeur. La clé qu'elle tenait dans la main lui échappa vite, elle la ramassa, referma soigneusement la porte et remonta dans sa chambre afin de se remettre un peu.
Barbe Bleue, lu par Marlène Jobert, Pierre-Emmanuel Mogg. On parle de morale, on parle comment s'inscrit l'écriture de ces contes dans la vie de Charles Perrault. La qualité narrative explique aussi grandement ce succès. Là, on est captivé, on a envie de savoir la suite, avec des personnages taillés au scalpel. Ils sont très facilement identifiables.
Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre était très intéressant parce que dans La Barbe Bleue, on peut suivre entre le manuscrit d'apparat dont je parlais tout à l'heure, qui est publié en 1695, et la version 2 ans plus tard imprimée chez Barbin, des petites variantes et des modifications. Ça nous offre une véritable génétique du texte. Et là, par exemple, il modifie un élément qui est vraiment savoureux, c'est que dans sa première version, quand elle récupère la clé, donc en 1895, quand elle récupère la clé, elle tâche de la nettoyer du sang qui s'y est déposé et elle n'y parvient pas. Et c'est tout. Alors que quand, 2 ans plus tard, il réécrit l'histoire, il rajoute, en vérité, elle efface le sang. Mais quand on l'ôtait d'un côté, il réapparaît de l'autre. Ce qui est beaucoup plus vicieux. C'est-à-dire qu'au lieu simplement d'avoir l'héroïne, qui au bout de quelques instants se rend compte qu'elle n'arrive pas à effacer le sang, non, dans un premier temps, elle croit qu'elle y parvient, avant de se rendre compte, et c'est diabolique, que ses efforts sont vains. Donc vous voyez le jeu vraiment de travail qu'il fait pour créer des images qui sont très très puissantes pour nous. Alors est-ce que les personnages sont si archétypaux dans le cas de La Barbe Bleue ? Je ne suis pas forcément favorable à ce qu'on aille chercher des personnages historiques moyenâgeux comme modèle pour ce conte. Et en vérité, quand on lit bien l'histoire, et c'est intéressant avec la voix de Marlène Jobert, parce qu'évidemment cette voix susurrante est tellement agréable, alors que le personnage de la femme dans l'histoire de Perrault, si d'un côté on a un monstre, la barbe bleue, d'autre côté on a tout de même une femme qui est très perfide et fausse. Pas simplement qui désobéit, mais qui comprend très bien les tenants et les aboutissants. Et en fait, ce qu'on peut penser dans ce conte comme dans d'autres, c'est que la problématique pour Perrault n'est pas de décrire un monstre. Sa problématique et de créer une relation. Ça n'est pas un personnage en particulier, c'est une relation de couple qui l'intéresse, comme dans d'autres histoires. C'est la relation entre, en vérité, deux méfiances absolues l'une de l'autre. Et son idée sera plutôt de montrer comme quoi, quand on rentre dans le mariage avec une méfiance réciproque, rien de bon ne peut en sortir.
Avec ici un support admirable à la réflexion, on vient de l'évoquer, tardivement, enfin plus tard, en tout cas au XIXe siècle, les frères Grimm se saisissent des contes de Perrault. On pourrait évoquer les publications par Hetzel avec les gravures de Gustave Doré, album sensationnel du XIXe siècle. On peut aussi parler de Bruno Bettelheim qui a fait cette psychanalyse des contes de fées dans les années 1970. En fait, le matériau conte de fées a cette portée universelle. Perrault, lui, est un moment, vraiment, et on vous entend, Pierre-Emmanuel Mogg, où tout cela se met en place. En fait, c'est la matrice de tout ce qui va se passer par la suite.
Il produit des images tellement extraordinaires que, effectivement, des générations herméneutiques, en quelque sorte, peuvent passer par-dessus et renouveler à chaque fois la lecture. D'ailleurs, Charles Perrault lui-même, dans ses mémoires, évoque la forte impression que lui a fait la Bible dans son enfance. Et on peut aussi trouver des liens, par exemple, entre le petit Pousset et David, voyez, qui ramasse des cailloux, qui est face à Goliath, face à un ogre. Donc on peut trouver aussi des échos, même avec la Bible, dans ces récits, mais également en termes stylistiques. C'est-à-dire des récits tellement, tellement au cœur, à l'épure, avec tellement d'ellipses, qu'ils offrent une liberté d'interprétation derrière. Vous parlez de Bettelheim. Il fallait sans doute passer par l'époque où on avait une lecture psychanalyste un peu systématique pour aujourd'hui l'utiliser comme un outil parmi d'autres.
Comme un outil parmi d'autres et avec un vrai succès populaire. Parce que j'évoquais cette publication Hetzel avec les gravures de Gustave Doré au 19e siècle, mais en fait, le nombre d'éditions différentes qu'il peut y avoir des contes de Perrault, c'est tombé dans le domaine public, évidemment, ça n'arrête jamais. Hein. On voit bien que là, c'est une valeur sûre, sans doute parce que ça nous rassure peut-être, ça nous rapporte à notre enfance individuelle et l'enfance de l'histoire des contes. Je dis conte de fées, sachant qu'il n'y a pas de fées chez Perrault. C'est rassurant.
Oui, ça a commencé sans doute même avant Gustave Doré. On a sans doute une édition annuelle tout au cours du XIXe siècle et ça continue aujourd'hui.
Et bien voilà, c'est pour notre plus grand plaisir et c'est aussi pour notre éveil, notre édification qu'on vous écoute Pierre-Emmanuel Mogg, parce que c'est vraiment important de saisir combien ce qui fait partie de notre culture populaire s'ancre dans un moment de notre histoire. C'est cette période sous Louis XIV avec ce personnage assez extraordinaire de Charles Perrault. Merci vivement à vous avec l'impatience de pouvoir lire cette fabrique des contes de Perrault. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est temps pour nous de poursuivre le conte. Celui qui nous le raconte, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment.
Tous les enfants de France sont et demeurent les amis de Charles Perrault.
Comment utiliser l'histoire pour devenir un grand homme ? Marcus Tullius Cicero, plus connu aujourd'hui sous le nom de Cicéron, est né à Arpinum en Italie. Avocat, philosophe, écrivain, il joua aussi un rôle politique important puisqu'il fut élu consul de Rome en 63 avant Jésus-Christ. Son principal acte de gloire fut d'avoir déjoué la conjuration de Catilina, l'un de ses concurrents, en le dénonçant publiquement lors d'un fameux discours où il se présenta comme le sauveur de la patrie. L'histoire de Cicéron est un exemple précoce de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un transfuge de classe. Bien qu'il ait appartenu à l'ordre des chevaliers romains, l'ordre équestre, il fut le premier citoyen ayant accédé au consulat, la magistrature suprême, alors qu'il n'était pas issu de la haute noblesse. Voilà pourquoi on trouve dans ses écrits une caractéristique fréquente chez les transfuges de classe, à savoir le souci de se justifier d'exister comme un membre légitime de l'élite de son temps. C'est dans ce but que Cicéron a utilisé l'histoire, en mobilisant notamment une figure de rhétorique qu'on appelle la prosopopée. Elle consiste à faire parler ou agir les personnes que l'on évoque. 3 ans après les faits, Cicéron a retranscrit par écrit les 4 discours qu'il avait prononcés en 63 avant Jésus-Christ, quand il était consul, pour dénoncer la conspiration de Catilina. Pour donner plus de poids à l'auto-célébration de son action politique, il mobilisa les grands personnages de l'histoire romaine, en jouant sur les ressorts de la dramatisation et de la théâtralité, dans le but de se présenter comme leur successeur. Dans ses discours, Cicéron s'efforça aussi d'élargir l'usage de la prosopopée, en faisant de la patrie romaine elle-même un personnage historique dénonçant le complot de Catilina. Or, c'est la patrie, notre mère commune à tous, qui te hait et qui te craint, qui juge que depuis longtemps tu n'as en tête qu'une idée, porter sur elle une main parricide. La voici, Catilina, qui s'adresse directement à toi et, sans voix, te tient cependant une sorte de langage. Parmi les autres procédés rhétoriques qu'utilisa Cicéron, on peut citer aussi l'autocitation, technique qui lui permet de se présenter lui-même comme un grand personnage. Finalement, ce qui frappe le plus dans ces discours de Cicéron, c'est donc sa façon d'utiliser l'histoire afin d'assurer sa propre place dans l'histoire. « Pour de si grands services, je ne réclame de vous, citoyens, aucune des récompenses dues à la vertu, aucune marque d'honneur, aucun monument de gloire. C'est votre mémoire, citoyens, qui donnera vie à mes actes. Ce sont vos paroles qui les feront croître. C'est de l'histoire qu'ils tiendront toute leur valeur et toute leur force. » Aujourd'hui encore, les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, mobilisent fréquemment l'histoire pour peaufiner leur image. Mais de nos jours, ils font généralement parler leurs personnages en leur consacrant des biographies, dont les titres sont révélateurs du message qu'ils adressent à leur électorat. C'est ce qu'a fait Jacques Lang avec son livre sur Laurent le Magnifique, Nicolas Sarkozy avec son Georges Mandel, le moine de la politique, sans oublier François Bayrou, l'auteur de Henri IV, le roi libre.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Une émission préparée, il était une fois, par Jeanne Delecroix, Anne-Tosiane Vudèche, Jeanne Copé, Raphaël Laloum et Mayou Nguizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.